Bonjour et bienvenue sur la troisième édition du podcast de Techno Carotte. Salut Rambite.
Salut Destou.
On va commencer par remercier, là, on a des fidèles auditeurs. Tu veux peut-être les saluer?
Il y a Denver et il y a aussi également Mike, des fidèles auditeurs du podcast qui ont été là pour les deux premiers et seront là également pour le troisième. Donc, on les salue. Et puis également, on voudrait remercier Bruno. Bruno, c'est un collègue qui nous a aidé à bâtir la nouvelle version du site de Techno Carotte, qui est extrêmement fonctionnel, il va extrêmement bien. Et également Nick 1305, qui lui nous a aidé au niveau du code source de certains plugins du site. Donc, on les remercie fidèlement et c'est très apprécié ce qu'ils ont fait pour nous.
Pour ce qui est de la qualité du show, présentement, on enregistre avec Skype. On n'est pas très loin. On devrait éventuellement enregistrer là, les deux à la même location, Rambite. Mais tu peux peut-être expliquer là, qu'est-ce qui se passe là, quand on enregistre avec Skype.
C'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui nous ont dit qu'on n'avait pas l'air assez naturel dans nos textes, que les réponses étaient trop longues entre moi ma fin et toi ton début ou etc. C'est ça. Faut juste spécifier qu'on est avec Skype. Je pense que c'est le meilleur logiciel de communication par la voix de ordinateur à ordinateur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un lag au niveau des de la voix là. Donc quand moi je finis, exactement, donc quand moi je finis ou quand Destou finit, ben c'est sûr qu'il y a un petit délai puis on peut pas vraiment combler à ça, mais quand on sera riche, on aura nos studios d'enregistrement personnel.
Ouais, ça, ou ben on va devenir psychique un peu puis on va prédire les réponses de l'autre, fait qu'on va pouvoir interrompre pendant que ça va faire plus naturel, mais pour le moment, ben on va vivre avec.
L'option du studio est peut-être plus la meilleure là.
Ouais.
À très 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 long terme.
Ah ben on verra là comment que ça avance.
Première grosse nouvelle qui est sortie tout récemment, c'est que le célèbre monsieur CSI, Jerry Bruckheimer, aurait obtenu les droits, il a obtenu les droits pour produire le film basé sur Prince of Persia, The Sands of Time.
Ben oui, c'est ça, c'est en collaboration avec Disney, je pense, puis Disney puis Bruckheimer Films, puis il commence la production, puis il devrait sortir quand?
En été 2008 pour la saison estivale, d'après les rumeurs, là, d'après les sources, puis même sur Internet Movie Database, on en parle déjà. Je me rappelle pas de son nom, là, mais ça serait un jeune là, de 19 ans là, qui serait dans les pour le personnage principal. Est-ce que le film va vraiment aller chercher l'essence du jeu? Je ne sais pas. Mais d'après tout ce que Bruckheimer touche et réalise, point de vue série télé et film, ça devient de l'art. Là. Donc, on pourrait supposer que Prince of Persia, The Sands of Time sera un hit. Là.
Ouais, puis on va se rappeler aussi que il y a deux semaines, on parlait dans les nouvelles là, du gouvernement québécois qui donnait des subventions à Ubisoft, ben là, ça vient tout jouer là-dedans. Là. Si on parle là, de 400 millions d'investissements dans les effets spéciaux cinéma, le nouveau studio d'Ubisoft, ben ça vient toucher là, à ce film-là là, directement.
Vu que Prince of Persia a été créé ici au Québec, donc...
Oui.
Chez Ubisoft, donc en tout cas c'est une très bonne nouvelle pour l'économie, puis ça va nous faire voir un petit peu sur la map là. Ça je suis pas inquiet là-dessus là.
Ouais.
Donc on fait une pause et puis on vous revient avec nos sujets de la semaine.
Donc, on est de retour pour rentrer dans les nouvelles. Rambite, tu avais quelque chose à dire sur Vidéotron?
Oui, le fournisseur de câbles télé, Internet et maintenant téléphonie et téléphonie sans fil, en tout cas, etc., s'apprête à mi-moderniser son réseau de télévision. Pour expliquer un peu là, qu'est-ce qu'il en est par rapport au réseau de Vidéotron, c'est qu'à la base, Vidéotron offrait la télévision en mode analogique. Et chaque canal analogique utilise une plage de 6 MHz dans la bande passante du réseau. Maintenant, pour aller en numérique, Vidéotron utilise une plage de 6 MHz qui est libre, donc qui n'a pas de canaux analogiques, pour faire passer ses canaux numériques. Tout dépendamment de la compression qu'il va avoir, Vidéotron peut rentrer entre 7 et 12 canaux numériques, ce qui fait que il y a quand même une surcompression et souvent les canaux sont de médiocre qualité. Sont de médiocre qualité, là, on s'entend, là. C'est pas, on parle pas, là, c'est pas laid. Sauf qu'aussitôt qu'on tombe dans des télés entre 30 et 32 pouces, et qu'on monte, on voit la pixelisation qu'il y a, là. C'est un mauvais numérique, là. Sauf que Vidéotron utilise son réseau déjà à pleine capacité. Ce qui se passe, c'est que, pour faire une histoire courte, c'est que Vidéotron pousse tous les canaux dans le réseau, et c'est le terminal à l'autre bout qui laisse passer ou pas le canal que vous êtes autorisé à regarder. Et Vidéotron a annoncé dans un communiqué de presse qu'ils vont lancer la SDV, qui est la Switch Digital Video. Et ça fonctionne sur un principe d'utilisation à la demande. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais pour faire un petit résumé, c'est que chaque section d'un quartier est divisée en cellules, et si un canal n'est pas regardé dans une cellule donnée, là, mettons dans votre quartier à vous, puis il n'y a personne qui regarde, exemple, TQS, ben il y a le serveur qui envoie les canaux numériques n'enverra pas à votre quartier, à votre cellule, la station. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va libérer beaucoup de canaux. Donc, tous les canaux qui ne seront pas regardés ne seront pas envoyés dans le réseau. Et donc, ça va libérer énormément de place et on va gagner en qualité. Les avantages, c'est que ça libère de la place et les canaux vont être beaucoup moins compressés. Et chose très importante, et ça, Vidéotron l'a confirmé, c'est qu'il n'y aura pas de changement de terminaux. C'est juste au niveau logiciel de l'appareil qu'une mise à jour va tout simplement être envoyée dans la nuit aux clients de Vidéotron pour s'adapter à leur nouveau réseau. Et ça va donner aussi un répit à Vidéotron pour moderniser leur réseau parce qu'ils sont en phase toujours de modernisation pour augmenter la capacité des canaux. Et ça va leur donner un répit. Cette technologie-là est déjà utilisée par des câblos distributeurs aux États-Unis et ça va très très bien. Et j'ai pas son nom là en note là, mais je crois que c'est une certaine Brigitte là. En tout cas, une madame chez Vidéotron dit que les tests vont très très bien à ce niveau-là et ça devrait être disponible. On parle, ils ont donné comme information seulement que ça va être disponible au prochain changement d'heure. Donc, ça peut être au premier comme au deuxième comme au troisième, mais d'après moi, ça va être assez rapide parce que Bell, avec sa publicité sur la plus grande librairie de canaux haute définition, Vidéotron se laisse pas abattre et d'après moi, ils vont lancer cette technologie-là assez rapidement. Point négatif, c'est que malheureusement, Vidéotron va savoir qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on n'écoute pas. Ils pourront peut-être le cibler de la publicité en conséquence. Ça, il faudrait voir. Mais bon, moi personnellement, ça m'inquiète pas, là.
Vois-tu, en premier lieu, je pense que s'il n'y a personne d'inscrit à tel ou tel canal, déjà, enfin, ça marche pour, ça va toujours marcher pour inscription. Par inscription chez Vidéotron.
Oui.
Tu es abonné à tel ou tel canal. Exemple, s'il n'y a personne dans un quartier qui a pris Sports Network Côte Ouest, ben ça va libérer de l'espace sur la cam, c'est ça que tu es en train de dire.
C'est ça. Le canal va être quand même disponible. Ce qui, quand on va syntoniser le canal, là, le réseau va nous pousser
Ah, OK.
ce canal-là dans notre terminal. Mais le canal qu'on écoutait auparavant, on ne l'écoute plus. Donc, l'ancien ne sera plus poussé. Donc, c'est vraiment comme un système comme à la demande, là. Le réseau va nous pousser les canaux qu'on sélectionne au fur et à mesure qu'on va les syntoniser, là.
OK, parfait. Mais ça changera pas les abonnements, puis
Non,
c'est on paiera pas moins cher non plus.
Ah, ça. Ça, je pourrais pas t'assurer là-dessus, là, mais.
Mais on va avoir plus de qualité pour le même prix. OK.
On en rit, hein, parce que, en tout cas. Mais quand même, c'est d'après moi, c'est une technologie qui est assez fiable. Puis le principe est très bon. J'ai juste hâte de voir les résultats, par contre. Et maintenant, Destou, tu veux nous parler que Circuit City, anciennement les Radio Shack, se lance dans la vente de jeux usagés.
Oui, ils ont commencé à tâter le terrain. Là, présentement, il y a des jeux de PlayStation 2 disponibles, des jeux comme par exemple Guitar Hero, Lego Star Wars, puis aussi des jeux de 360, je pense qu'ils sont rendus à 12 ou 13 jeux disponibles comme jeux usagés pour revente. Donc, on parle de... ils essaient de bouger dans le marché là, qui est présentement occupé par GameStop, puis par EB Games, puis ces choses-là, ces magasins-là.
Les microplays aussi, là, qui sont dans la game, là.
Oui. Puis Dimension aussi, qui est fort au Québec. Mais là, on parle, là, les tests commencent aux États-Unis. Donc, ça va peut-être continuer là, vers le Canada, tout dépendant là, du résultat. À date, c'est un succès limité qu'un gros magasin. On parle là, d'une big box retailer là, qui fait normalement son argent dans la vente de nouveaux produits là, qui se lance dans le jeu usagé. C'est sûr qu'on parle d'un gros markup quand on retourne un jeu et que la compagnie le revend. C'est la majorité du chiffre d'affaires là, de AB Games et ces compagnies-là. Mais que c'est ça, une grosse compagnie là, qui est Circuit City. Est-ce que ça va suivre au Canada? Je pense pas, parce que le concept des Circuit City est plus là, comme la suite logique du Radio Shack. Mais ça se peut. Tout est possible. Là. Ils ont peut-être pas la même visibilité et le même establishment là, que les gros magasins là, qu'on parle de Best Buy ou Future Shop ou les autres géants. Là. Mais on devrait voir des changements là, au Canada aussi.
Il faut quand même voir que les EB Games, Microplay, puis Dimension sont quand même des gros joueurs là-dedans. Là. Oui. Ils partent de loin. Là. S'ils veulent s'en venir ici, ils vont partir de loin. Là.
Mm-hmm. Oui, c'est sûr. Là, il y a beaucoup de jeux qui se vendent dans les Walmart et dans les Toys R Us. Ça, faut pas se leurrer. Là, même si le public hardcore va magasiner dans les boutiques, tout ce qui est grande surface, le Zellers, Walmart, puis Toys R Us, présentent une grosse partie des ventes là, de jeux neufs puis d'équipements électroniques. Mais on va voir comment ça va se passer.
Et puis dernière chronique, tu veux nous parler de Google qui se lance dans la vente de software en ligne?
Oui, il y avait déjà la possibilité d'utiliser des différentes applications comme un spreadsheet, puis un traitement de texte, calendrier, puis toutes des applications comme ça, à partir de Gmail, à partir de Google directement. Mais là, ils sont rendus à en vendre ces services-là aux compagnies. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, j'ai pas eu le temps de beaucoup regarder, là, mais on parle des applications Java, des applications comme ça, là, web, qui vont permettre de faire du traitement de texte, collaborer à plusieurs sur un document, de toutes des features qui sont disponibles là, avec les autres programmes là, offerts par différentes compagnies. Mais quand je dis différentes compagnies, je veux dire Microsoft Word. On parle de la suite Microsoft Office là, qui est omniprésente dans l'industrie, dans le domaine là, de corporatif et des compagnies. Mais là, on a Google qui a annoncé qu'il y avait 10 000 compagnies qui testaient et ou achetaient leur solution d'édition de documents en ligne. Ça va être quelque chose à voir. Moi, je vous suggère d'aller sur docs.google.com et de vous enregistrer pour faire le test. Ou si vous avez un compte Gmail, d'aller directement sur votre compte Gmail, puis en haut à gauche, vous allez avoir un lien là, documents et spreadsheet. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement en français. J'ai pas vérifié là, si la version française était disponible. Mais c'est quelque chose à tester. Et puis, si vous n'avez pas de compte Google et Mail, ben, vous avez juste à vous enregistrer. Là, un mois, je vous aurais dit, ben, je vais vous envoyer un invite. Mais on n'a plus besoin d'invite. Donc, c'est quelque chose à essayer.
De toute façon, on va mettre le lien sur le podcast là, de Technocarotte. Ouais. Mais une question par rapport à ça, crois-tu qu'ils veulent essayer aussi de compétitionner parce que c'est sûr qu'il y a la suite d'Office, mais crois-tu que ça peut leur rentrer dans le corps la version OpenOffice?
Peut-être. La version OpenOffice, on parle d'une version fermée qui était disponible avant puis qu'ils ont décidé d'ouvrir au public puis d'ouvrir la source du code. Donc, il manque quelque chose. Il y a quelque chose. C'est pas Office, c'est pas Excel, c'est pas Word, c'est pas Outlook. Je ne sais pas si elle va lever éventuellement cette version-là open. De ce que je vois, ça prendrait un rewrite complet, mais en même temps, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance à date-là. Je l'ai essayé. J'ai essayé Release 11. Il y avait un petit quelque chose qui me fatiguait, je me rappelle plus quoi exactement là, mais ils arrivent pas encore à acheter.
Donc Google aurait pas à s'inquiéter de ce concurrent là, c'est vraiment pour aller concurrencer Microsoft.
Oui, directement là, c'est pour aller chercher le marché de Microsoft. Et non, ben en théorie, c'est d'aller chercher le marché du word processing et des spreadsheets, mais en pratique là, c'est vraiment aller chercher du marché à Microsoft directement.
Bon, de toute façon, comme on l'a dit, on va mettre le lien là sur le podcast de Technocarotte pour que vous ayez puissiez vous enregistrer puis l'essayer au pire. On est de retour et maintenant on a une nouvelle chronique qu'on a appelée les coups de cœur. Donc ça va être au fil des podcasts. Ça peut être un site, un jeu, peu importe. C'est notre coup de cœur de la semaine ou du deux semaines vu qu'on enregistre aux deux semaines. Toi, Desto, c'est un site internet.
Oui, c'est un site de mots. J'ai vu premièrement celui en anglais, puis après ça, je suis tombé sur celui en français, qui sont tous les deux faits par la même personne. En anglais, on parle de morewords.com, donc en français, la traduction directe, et le site qui a été fait, qui s'appelle plusdemots.com. Ça, pour tous les puzzles avec les lettres, c'est la référence. Là, on tape, disons, quelques lettres, on peut taper des tirets pour les lettres inconnues ou des étoiles ou des wildcards comme ça. Puis, ça va sortir la liste de mots disponibles, la liste de mots possibles à faire, même une définition du mot si on en a besoin. Puis, pour tout ce qui est jeu de mots, là, c'est vraiment un outil.
De mots croisés, le Scrabble.
Il y en a qui trouveraient ça peut-être un petit peu triché. Ben moi, je vous dis que je m'en sers comme aide pendant que je joue pas à ce jeu-là ou à un jeu qu'on a besoin. Mais c'est vraiment là, pour tout ce qui est puzzle de lettres, là, c'est parfait. Des anagrammes, ils donnent la liste de mots possibles. Puis la liste de mots possibles, si on rajoute une autre lettre, puis quelle lettre il manque? C'est des fonctions là, que j'avais pas vraiment vues avant là, de façon électronique, là, mais disons là, que c'est ça m'a impressionné.
Moi, de mon côté, c'est un jeu en flash que j'ai découvert. J'en avais entendu un peu parler, mais je croyais que c'était seulement sur la PlayStation 3. C'est le jeu Flow, qui est en passant déjà disponible sur le site, sur la section d'arcade de Technocarotte. Donc, vous cliquez sur arcade en haut et le jeu va être là. C'est simple, on pourrait dire un genre de plancton, puis il faut manger les autres planctons alentour pour évoluer, et il faut aller de plus en plus profond. Mais plus on va profond, plus que les bibites, plus que on a des ennemis qui sont un petit peu plus forts que nous. Faut savoir comment les manger, quoi faire. Et donc et finalement aller manger le boss de la fin. Et quand on a réussi, on remonte à la surface et on recommence, mais sous une autre forme. Et on peut faire ça là 5, 6, 7 fois. Il n'y a pas de limite de temps. C'est relaxant, c'est tranquille. Ça joue avec la souris. C'est la souris, un bouton et c'est simple. Seul bémol, faut une bonne machine pour y jouer.
Ouais, j'ai essayé, j'ai réussi à faire le premier loop, me rendre à la fin, détruire le boss. Mais là, la deuxième partie, là, il y avait trop de choses qui bougeaient à l'écran. Mais sérieusement, là, après avoir joué un peu, là, je me rends compte que c'est un jeu que j'aurais vu sur la Wii, ça. Ben, c'est tout pour cette semaine. Donc, on espère vous reparler dans deux semaines sur notre autre édition du podcast. On va essayer de vous dénicher des surprises, dénicher peut-être des nouvelles que vous n'avez pas vues, d'autres coups de cœur.
Et puis, moi, de mon côté, ben, je vous réserve peut-être pas au prochain podcast, là, mais d'ici quelques-uns, là, une bonne nouvelle pour les auditeurs du podcast. Donc, soyez là, soyez attentifs. Et puis, on se revoit dans deux semaines.
Dans deux semaines.
Bye!